Et bonjour à toutes et à tous. 41e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La pénibilité, notamment, est au menu des discussions aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats. La pénibilité au cœur également de la contestation dans les hôpitaux, vous l'entendrez. Alors qu'un millier de médecins menacent de démissionner collectivement si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne débloque pas davantage de moyens humains et financiers pour les hôpitaux publics. Une stratégie militaire revue au Sahel, la promesse d'une meilleure coopération entre forces armées françaises et africaines, c'est le bilan du sommet organisé hier à Pau entre Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie. La présence militaire a des conséquences humanitaires, vous l'entendrez. Hier, la Knesset a entamé la procédure d'examen de la demande d'immunité de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien inculpé pour fraude, notamment et abus de confiance dans 3 affaires politico-médiatico-financière avait demandé au Parlement israélien de lui accorder l'immunité, mais ce calendrier est trop précoce pour lui. Correspondance à suivre dans ce journal. Après les enseignants hier et 500 millions d'euros promis pour revaloriser les traitements des fonctionnaires l'an prochain, c'est à l'emploi des seniors et à la question de la pénibilité que le gouvernement consacre aujourd'hui des réunions avec les partenaires sociaux. À 10 jours de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur les retraites et au 41e jour de contestation du texte, la mobilisation est-elle en train de s'éroder? Oui, selon la direction de la SNCF qui compte aujourd'hui 8 TGV sur 10 et 3 TER sur 4 en moyenne. Mais la CFDT Cheminots veut obtenir davantage de concessions pour les agents au statut. La base de l'UNSA ferroviaire également. Pour suivre le mouvement dans la longueur, c'est l'objectif de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, CFE-CGC qui appelle, elle, à une nouvelle journée d'action interprofessionnelle ce mardi avant une nouvelle série de manifestations jeudi. Tenir dans la durée un casse-tête, Annabelle Grelier.
40 jours de grève dans les pattes, c'est dur pour les cheminots et les agents de la RATP, mais dans de nombreuses AG, la reconduction du mouvement a tout de même été votée. La stratégie pour les syndicats contestataires est simple, ceux qui peuvent financièrement continuent, ceux qui ne peuvent plus participent au moment fort. Un noyau dur de 20% environ des conducteurs de train à la SNCF sont prêts à tenir, mais tous pensaient que le privé entrerait plus vite dans le mouvement. Comme Thierry Defresne, délégué syndical chez Total.
C'est vrai que ça s'est fait de manière trop timide, donc aujourd'hui effectivement, on a besoin que chaque salarié du privé fasse son examen de conscience, se dire est-ce que oui ou non je suis capable de me mettre en grève pour lutter contre ce projet. Et pour ça, il faut absolument que chacun puisse se rapprocher d'une organisation syndicale pour réussir à créer les conditions à ce que ces grèves se passent dans son entreprise. Parce que toutes ces grèves cumulées viennent directement impacter au portefeuille les patrons. Et les patrons, on le sait, une fois qu'ils subissent beaucoup trop de pertes, ce sont les premiers, eux aussi, à aller voir le gouvernement pour faire en sorte que un projet puisse être retiré. Donc finalement, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, puisqu'on a un gouvernement face à nous qui balaie du revers de la main les grèves qui ne sont pas visibles, ou même les manifestations, même si elles sont bien fournies. Donc on voit bien que ce gouvernement pousse à la radicalité, pousse au durcissement, et le durcissement ne peut se faire qu'au travers de la grève générale et de la paralysie de l'économie.
En jouant le pourrissement du mouvement, le gouvernement prend le risque de voir des actions isolées se multiplier. C'est le ministre Gérald Darmanin qui se fait chahuter par 200 manifestants hier soir lors d'une réunion de soutien à la campagne municipale de Benjamin Griveaux, ou encore les avocats qui ont fait hier obstruction lors d'une audience à Paris permettant la remise en liberté de 7 prévenus sans avoir été jugés.
Au ministère de la Santé, à présent, les concertations se poursuivent cette semaine toujours sur la réforme des retraites. Force ouvrière a décidé de les boycotter, tout comme Sud Santé. L'un des points d'achoppement, c'est la fin des catégories actives dont font partie les aides-soignants. Un dispositif leur permet actuellement de partir en retraite autour de 57 ans en raison de la pénibilité de leur travail. À la place, le gouvernement leur propose de travailler plus longtemps avec des temps partiels en fin de carrière. Intenable pour le secrétaire général Sud Santé, Jean-Marc Devauchel.
On a des métiers dans la santé qui sont extrêmement pénibles. Moi, je vais vous prendre un cas tout simple, c'est le mien. Je vais sur mes 54 ans, je suis un aide-soignant. Je suis physiquement, je ne parle pas psychologiquement, mais physiquement, je suis cassé. Je suis cassé, j'ai plus de dos. Il y a des métiers qui sont difficiles, il y a des métiers qui sont dangereux. Celui-ci de la santé, du social et du psychosocial aussi, il est dangereux. Alors du coup, on va essayer de vous aménager une fin de carrière à mi-temps. Mais où, comment, sur quelle passerelle, sur quoi? Il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun débouché. Ça fait des années que j'entends parler des passerelles dans les différentes fonctions ou aller dans d'autres secteurs, etc. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des phrases qui font bon à un moment donné, qui donnent peut-être un peu d'espoir aux uns et aux autres, mais en fait, c'est dénué de sens.
Jean-Marc Devauchel, le secrétaire général Sud Santé, répondait à Céline Autain. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sous pression sur un autre front. Plus d'un millier de médecins de l'hôpital public menacent de démissionner collectivement de leur fonction de chef de service ou d'autres responsabilités administratives si le gouvernement ne débloque pas dans les plus brefs délais 600 millions d'euros pour l'hôpital. Dans une lettre ouverte publiée ce matin dans les pages de Libération, ces médecins donnent une semaine à Agnès Buzyn pour leur répondre avant de mettre leur menace de démission à exécution. Eux appellent à des rassemblements silencieux aujourd'hui devant les commissariats de France. Les syndicats Alliance et UNSA Police entendent dénoncer une nouvelle fois leurs conditions de travail, alors qu'hier, deux agents se sont suicidés et que le policier fauché à Bron, près de Lyon, par un fourgon, c'était lors d'une intervention ce week-end, est mort des suites de ses blessures. Une journée noire en pleine polémique sur les violences policières. La famille de Cédric Chouvia, décédé après un contrôle de police à Paris, sera reçue aujourd'hui place Beauvau. L'inquiétude des salariés de l'ancienne de distribution Auchan. Aujourd'hui se tiennent trois comités sociaux économiques extraordinaires dans le Nord, au cours desquels il devrait être question de plans de départ volontaires. Si on en croit les syndicats les mieux informés, jusqu'à un millier d'emplois seraient concernés. Il faut dire que le groupe de distribution ne va pas bien, avec une dette de plus de 5 milliards d'euros et une perte supérieure à 1 milliard d'euros pour l'année 2018. Les Français délaissent les hypermarchés comme Auchan pour faire leurs courses près de chez eux ou sur Internet. 220 soldats français supplémentaires au Sahel. L'annonce a été faite hier soir par Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet organisé à Pau avec les chefs d'État du G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, cinq pays confrontés à l'explosion de la menace djihadiste qui a essaimé ces dernières années dans cette zone sahélo-saharienne grande comme l'Europe. Bilan des discussions d'hier, une stratégie militaire revue, la promesse d'une meilleure coopération entre forces armées, un appel au soutien international et la réaffirmation du besoin de la force Barkhane au Sahel, 4500 soldats français. Les réponses militaires ont aussi des conséquences négatives pour les populations civiles. C'est ce que rappellent trois ONG, Action contre la faim, Norwegian Refugee Council et Oxfam, qui réclament aux dirigeants français et africains d'aborder les aspects humanitaires du conflit au Sahel. Elles rappellent que le nombre de personnes déplacées en situation de crise humanitaire ne cesse d'augmenter. Michael Slatchek est le porte-parole d'Oxfam en Afrique.
Un des chiffres qu'on cite, c'est les 80 000 personnes qui ont été déplacés par les opérations militaires elles-mêmes, et non pas seulement par les groupes armés. Les besoins humanitaires ont augmenté énormément. On pense particulièrement au Burkina Faso, où le nombre de déplacés internes a été multiplié par 10 sur l'année 2019. On atteint plus de 560 000 personnes déplacées à la fin de l'année 2019. Et on se retrouve avec des populations qui ont fui, qui ont laissé tout derrière, qui ont perdu leurs moyens d'existence, qui ont un accès très limité à l'eau et aux infrastructures de base, que ce soit les services de santé ou l'éducation. Et l'aide humanitaire qui a été donnée pour l'année 2019 a été largement insuffisante puisqu'elle n'a couvert que la moitié du plan de réponse qui était demandé pour l'année 2019. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que ces besoins continuent d'augmenter, en particulier au Burkina Faso. Les dernières données prévoient un doublement de la faim au Mali et au Burkina Faso pendant la période de soudure. Sur le Sahel central, là où l'urgence est la plus grande, c'est quand même au Burkina.
Michael Slatchek, porte-parole d'Oxfam en Afrique, joint à Dakar par Nadine Epstein. La menace islamiste en Irak à présent. Il faut aider les Irakiens à gérer la menace du groupe État islamique pour nous tous, pas seulement pour la région, mais aussi pour l'Europe et le monde entier. Ce sont les mots du roi de Jordanie, Abdallah II, hier sur France 24. Il craint que l'organisation terroriste ne profite du conflit entre l'Iran et les États-Unis pour se renforcer, notamment dans l'ouest de l'Irak, où la ville d'Al-Baj est plus que jamais sous la menace des djihadistes. Le reportage de nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Eric Audra dans les camps de déplacés au Kurdistan irakien.
C'était le combat de trop. Il y a quelques jours, Hissan Ziyab assiste impuissant à un nouvel épisode de violence. Ce père de famille d'une trentaine d'années décide alors de quitter sa maison d'Al-Baj, au cœur du territoire sunnite, pour rejoindre à 200 km de là le camp de déplacés d'Hassan Sham III. C'est au nord-ouest du Kurdistan irakien.
C'était la nuit et tout à coup c'est devenu le jour. Il y avait des armes lourdes, on s'est tout de suite dit que Daesh était venu et qu'ils allaient prendre Al-Baj. Les forces gouvernementales sont alors arrivées. arrivés, ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter. Ils transportaient des corps de djihadistes, 3 ou 4 cadavres décapités. Je me suis dit que pour moi, Al-Bahj, c'était terminé.
Tous les jours, comme Issan, une centaine de personnes fuient les violences pour trouver refuge entre les barbelés du camp. Et les arrivées ne devraient pas s'arrêter, selon le directeur d'Hassan Sham 3, Rachid Darwish.
Aujourd'hui, à cause du conflit entre les États-Unis d'un côté et l'Iran et le gouvernement irakien de l'autre, c'est une opportunité pour Daesh. Et c'est pour cette raison que les gens ont peur, ils sont paniqués. Daesh peut revenir, pas forcément avec le même nom, mais sous une autre forme.
Le camp aurait dû fermer l'année dernière, c'était en tout cas le souhait des autorités irakiennes. Il reste aujourd'hui 6000 personnes soupçonnées pour certaines de soutenir encore Daesh.
Hier en Israël, la Knesset a entamé la procédure d'examen de la demande d'immunité de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien inculpé pour fraude, abus de confiance et corruption dans 3 affaires politico-médiatico-financières, avait demandé au Parlement israélien de lui accorder l'immunité. Mais ce calendrier est trop précoce pour lui, Frédéric Mettezo.
Benjamin Netanyahou jouait la montre. Le Premier ministre pensait que la Knesset, issue de l'élection du 2 mars prochain, étudierait sa demande, c'est-à-dire pas avant fin mars, début avril, avec aussi l'espoir qu'il réalise un meilleur score lors de ce scrutin et que la composition de la prochaine chambre lui serait plus favorable. Mais dimanche, le conseiller juridique du Parlement a estimé que l'actuelle, pourtant dissoute, avait compétence pour siéger. Hier, donc, lors de 2 réunions houleuses, le comité de conciliation a voté par 16 voix contre 5 la création de cette commission chargée d'examiner la requête de Bibi Netanyahou, 30 députés, et si l'on regarde les déclarations des uns et des autres, il y a de fortes chances pour qu'il rejette l'immunité. Cela voudrait dire alors que la procédure judiciaire suivrait son cours, ce qui prendra tout de même 2 ou 3 ans minimum. Pour le Likoud, le parti de droite de Netanyahou, le Parlement est l'otage de la formation centriste bleu-blanc, il dénonce le tout sauf Bibi, et il espère faire traîner les débats jusqu'à l'élection pour empêcher la commission de trancher d'ici là. Il veut faire feu de tout bois et espère invalider la décision du conseiller juridique du Parlement pour conflit d'intérêts. En effet, sa femme travaille avec le procureur d'État qui a mis Netanyahou en examen.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Le temps de ce mardi 14 janvier, marqué par une alerte orange pour vagues submersion dans le Finistère, le Morbihan et en Loire-Atlantique. Partout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera 11 degrés à Paris et Strasbourg, 14 à Clermont-Ferrand et Nice, 15 degrés à Biarritz. Prochain journal de la rédaction à 7h30.